et la rentrée, il n'avait qu'à venir. Les larges yeux clairs d'Isabelle rappelaient à Annette le regard bleu de sa mère. Sa voix se détachait mal des refrains doctés par la sono enragée des autos tamponneuses, mais une sorte de bonté placide montait d'elle, de ses mains croisées sur le sac de toile brune qu'elle tenait contre son ventre, de son gilet mauve jeté aux épaules, de sa chair même, blanche et plantureuse. Michel n'avait à peu près rien dit, campé derrière sa femme, approuvant, appuyant du regard, vaste de poitrine, au long immense, les poignets larges et massifs. Annette et sa mère avaient vécu à l'ombre des familles royales qui découpaient un rond de douceur dans leur vie du Nord, surtout la famille royale d'Angleterre. Les Belges étaient trop proches par la géographie. On aurait presque pu les toucher, les rencontrer. De l'autre côté, là, à moins de 20 kilomètres, ça ne faisait pas royaume ce que l'on connaissait et qui était déjà la Belgique, ce mont noir où l'on achetait moins cher l'alcool et les cigarettes en cartouches, où l'on était allé en troupe les dimanches après-midi quand on était jeune et ensuite moins jeune. On avançait par grappes lentes de filles et de garçons mêlés. On traînait dans les boutiques pour voir, pour regarder, pour flairer le spectacle de la vie des autres. On n'avait pas l'argent, ou seulement pour une pochette en simili-cuir ou un porte-clé. On gardait ses envies, on rentrait avec elles, entassées dans la voiture, enlisées dans le flot que dégorgeaient les Perkins en fin d'après-midi. Après, Didier Vanette n'était plus retourné en Belgique, ni à la frontière, ni ailleurs dans ce pays qui ne pouvait pas faire royaume. L'Angleterre, c'était autre chose, le Royaume-Uni. On n'y allait pas. Eric, lui, verrait Buckingham Palace et la relève de la garde. Il saurait vraiment l'anglais, c'était indispensable pour avoir un métier. Annette avait tout oublié, ou presque, des rudiments du collège. Elle se souvenait des jours de la semaine, mon détesté, de Rondeau d'Omelnalvis, et d'autres bribes inutiles qui flottaient dans le vague. L'anglais l'avait glissé comme le reste, mais la famille royale, la dynastie régnante, les Windsor résistaient, tenaient bon, ne mollissaient point, essuyaient les incessantes avanies, triomphaient de l'adversité, méprisaient les Quolibets, érigeant par leur magistrale présence un rempart contre la menace criarde qui surgissait de l'avenir, du XXIe siècle, de l'Europe, de la Chine et de l'Inde, et de ce monde énorme, grouillant de pauvres et hontés, où les métiers stables n'existaient plus, où les familles étaient recomposées si elles n'étaient pas monoparentales, où chaque enfant devait avoir un téléphone dans son cartable, un ordinateur et une télévision dans sa chambre, sous peine d'endosser le rôle du minable, du perdu d'avance, de l'assisté congénital. On était bombardé. Annette se sentait assaillie, assiégée, débordée de toutes parts et incapable de faire face, de résister à cet assaut universel dont parlait le journal télévisé et, avec trop de mots vides jetés, la dame des astiques, l'autre dame du bilan de compétences et même l'assistante sociale, la jeune remplaçante de Madame Flagel, que l'on avait beaucoup connue et que l'on ne craignait pas, que l'on comprenait, du temps où elle suivait la famille de Didier. Il fallait se défendre, et comment, puisque le travail fuyait, et que, toujours, Annette était renvoyée à ce qu'elle ne savait pas faire, ou à ce qu'elle n'avait pas, la mobilité géographique, l'expérience du service en salle, la maîtrise de l'anglais commercial. Ce dont elle était capable ne comptait pas. Et de quoi était-elle capable? Le ménage, le repassage, les soins aux personnes âgées, elle avait accepté ces tâches, s'en était acquittée, sans geindre, mais n'y faisait pas merveille, et en retirait un sentiment gluant de constante humiliation. Elle ne savait pas mettre les mots attendus entre elle et les personnes servies, les employeurs. Elle se taisait quand il aurait fallu en juponner de bavardage commode la toilette des corps, la préparation du potage, les gesticulations d'usage autour du lit défait ou du linge souillé. La cause serait entendue, on ne la redemanderait pas, on lui préférerait quelqu'un d'autre. Les candidates abondaient, qui s'arrachaient les places les plus dérisoires. Les femmes étaient légion, comme elles débauchées et vacantes, après 15 ou 20 années passées dans des usines de plus en plus vacillantes, où elles n'avaient rien appris d'autre que la maigre cohorte des gestes obligés. Les mots ne venaient pas à net. On jugeait qu'elle manquait de chaleur, d'initiative, de dynamisme. Se forcer était pire, sonner faux, frôlait l'impossible, la laissait exsangue et comme hébétée. Elle n'avait pas le don d'être avec les gens dans le monde. Toute la patiente ardeur dont elle était infiniment capable ne se déployait qu'à l'endroit de quelques-uns, d'une poignée, et ce depuis toujours, sa mère, son père, une cousine qui avait suivi son mari au Canada, une ou deux amies de classe, emportées elles aussi par le cours des choses. Et enfin, et surtout, Didier, Eric, le fils, le seul qui restait avec la mère pour faire noyau, on était démunis, on se sentait pour toujours nu, à deux doigts de l'effacement, on n'avait pas chaud. Alors, Annette, par le truchement de sa mère d'abord et dans son sillage, de son propre chef ensuite, avait élu la famille royale d'Angleterre qui balayait de son lumineux rayon l'horizon féroce, tous en masse étaient admis dans le cénacle, les membres selon le sang et les fraîches fiancées, les épousés, les enfançons, filles et garçons, en bloc, les Sarah, Diana, Péatrice, Eugénie, William, Harry, tout auréolés d'en être, nimbés de cette onction, inclus les fleurés caressés par la pensée, on glisserait sur les discordes, les divorces, les déconvenus et autres dissensions qui n'eussent pas manqué de saper le bel édifice et d'enrayer la machine à rêve. Annette et sa mère n'aimaient pas que les princesses souffrent aussi et,